Exact. Quelle ambiance, quelle ambiance. Je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième édition de votre nouveau talk show. Ça peut faire mal, en direct sur IDFM. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Oxyde. Comment ça va, poto?
Ça va et toi, Rémi?
Ça va, enfin, tranquille. Quoi de neuf?
Eh ben, rien de neuf.
Rien de neuf.
Voilà.
Tout de suite, c'est ça?
Exactement.
Et toi, Briac, comment ça va?
Ça va super. En pleine forme, d'attaque.
D'attaque, comme d'habitude.
Toujours.
Avec ta petite chronique après.
Exactement.
On va y venir juste après. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a une très grosse émission qu'on vous a préparée. On aura Léa, présidente de l'association Le Yeti, qui va venir nous parler des chiffres clés concernant les abandons animaliers et nous expliquer le fonctionnement de son association. On va recevoir également Hélène Vigier. Dans la deuxième partie, elle est éducatrice et comportementaliste canin et comportementaliste félin. On aura également en dernière partie Lionel D, qui fait partie du groupe d'intervention qui a arrêté Salah Abdeslam en Belgique. Hein, Salah Abdeslam qui est, on le rappelle, un des membres des attentats du 13 novembre. Avant ça, et comme chaque semaine, on se pose une question pour que vous, auditeurs, appreniez mieux à nous connaître. Et cette semaine, c'est la rentrée. Du coup, on s'est demandé quelle est la matière que vous détestiez le plus à l'école. Briac.
Alors, je vais pas être original,
ouais,
mais c'est les mathématiques. C'est comme beaucoup de gens, je pense.
Ouais.
Mais voilà, ça a été un compliqué, vraiment compliqué, du CP à la terminale.
Ok.
Par exemple, à titre informatif, hein, au bac, donc un bac économique et social, donc où les maths sont quand même très importantes.
Ouais, c'est ouais.
J'ai eu trois.
Trois.
C'est, trois c'est... à l'écrit, donc forcément, bah, ça part en rattrapage, assez logiquement.
Et en rattrapage?
Attention. Trois encore.
Ah oui, d'accord.
Ah bah ouais, merde. Et toi Oxyde, même si
moi c'est pareil, mais j'ai si fait c'est marrant, on a fait les mêmes études, j'ai fait
bac c'est toi, non?
Ça s'appelait déjà bac économique et social à l'époque.
À ouais. L'époque.
Et non moi il y avait pas vraiment une matière où j'étais nul, où j'étais bon, ça changeait de d'année en année.
Okay. Là,
il y avait une année où j'étais bon en maths, l'année d'après j'étais nul, et puis par moment j'étais bon en histoire géo, l'année d'après j'étais nul. Et par contre il y a des matières où j'étais tout le temps bon, ça va être musique, dessin et sport.
D'accord. C'est étonnant la musique, ça, bizarre.
Ouais, bizarre.
Ouais, mais ouais.
Quand on se dit que t'es producteur maintenant, on comprend.
Ok. Et toi, Rémi?
Alors, bah,
mais
moi,
toi, Rémi, oui.
Alors, moi, je vais pas être original, mais je vais dire comme Briac, c'était les maths. J'avais horreur de ça. C'est pas bien, mais je dormais un petit peu en cours de maths, et c'est pour ça que j'avais des notes pas très très bonnes. Donc c'est pas joujou, hein, tout ça.
Merci. Genre ouais. T'étais une star en histoire géo, tout ça, quoi.
Ah non, bah non, j'étais pas non plus ouais, extraordinaire. Ouais,
t'étais pas bon, quoi, c'est tout, quoi.
J'étais pas bon du tout en histoire géo non plus. En fait, j'étais pas très bon à l'école, tout simplement, tu vois. Moi, je voulais rentrer, animer, faire de la radio, accueillir des artistes, et c'est pour ça d'ailleurs.
C'est le cas aujourd'hui.
Ouais, c'est le cas aujourd'hui, tu vois.
C'est beau.
Mais bon, c'est mieux d'avoir des bonnes notes à l'école, les enfants qui nous écoutent, voilà.
Oui, il faut aller à l'école.
Il faut aller à l'école, il faut écouter, et puis vous verrez
que
vous aurez.
Pas comme nous.
Voilà, faut surtout pas faire comme nous, hein, et encore moins comme Oxyde, hein, voilà.
Voilà.
Bon, tout à l'heure, on va s'écouter balader.
Je veux me balader, mais c'est plus comme avant.
De Soul King et Niska, ça, c'est du son qui ambiance. Et ce sera tout à l'heure sur IDFM. En attendant, on va passer à la suite avec la chronique de Briac, qui on reçoit aujourd'hui la présidente de l'association Le Yeti.
Tout à fait, Rémi. Donc ouais, on reçoit aujourd'hui la présidente de l'association Le Yeti qui aide les animaux à retrouver une famille. Comment ça va, Léa?
Ça va très bien, merci.
Parfait. Donc ouais, on va parler d'un sujet très important et qui malheureusement est encore plus d'actualité cette année, c'est l'abandon des animaux. C'est déjà la fin de l'été, c'est passé vite, encore une fois. Mais maintenant, il faut rendre les comptes. On le sait, la France a la mauvaise réputation d'être la championne d'Europe, voire du monde pour certains, du nombre d'abandons d'animaux. On a environ 100 000 par an, dont 60 000 en été. Ça fait environ 11 animaux abandonnés toutes les heures. Et autant le dire tout de suite...
C'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Et autant le dire tout de suite, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour 2022. Pour recontextualiser, l'année dernière, elle était 2021, le record du nombre d'abandons a été battu avec 16 894 animaux retrouvés tout au long de l'été, soit une hausse de 7% par rapport au précédent record. Et cette année, donc il est encore un petit peu trop tôt pour donner le chiffre total de cet été, mais à la mi-saison, on peut déjà vous dire que le nombre a déjà augmenté de 12% par rapport à la même période de l'année dernière, soit 8 000 bêtes à peu près recueillies par la SPA rien qu'en juillet. Sauf que justement, la SPA est évidemment saturée parce qu'il n'y a que 7000 places dans toute la France. Donc il y a d'autres alternatives qui existent, heureusement. C'est les refuges. Donc nous sommes, comme l'a dit Rémi, avec Léa, fondatrice de l'association Layeti qui existe depuis 2020. Donc Léa, comment t'as vécu au sein de l'association cet été qui est malheureusement historique?
Ça a été très compliqué, d'autant plus qu'on est une petite association hein, pour le moment. Honnêtement, les finances ont frôlé le rouge, ça a été vraiment délicat. Voilà, on a eu très peu d'adoptions également, c'est vraiment... on a que 2 ans et demi de recul après, hein, mais sur ces 2 ans et demi, c'est les 2 mois où on a eu le moins d'adoptions depuis le début. Et inversement, le plus d'abandon, le plus d'animaux recueillis de tout horizon. Voilà.
Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ton association?
Oui, alors l'association Layeti, elle est née le 9 juin 2020. Voilà, donc ça fait après 2 ans et demi.
Juste après le Covid, donc.
Voilà.
Après, mais du coup, ça vient d'où le nom Layeti? Parce que moi, là, tu me dis Layeti, moi je pense à un gros truc qui fait peur.
Oui, alors non, Layeti ne faisait pas peur, Layeti c'était un chat. En fait,
Ok, on comprend mieux alors, ouais.
Et non, il était trop mignon. Donc, c'était à l'époque où j'allais à l'université, et en fait, sur le chemin de la gare, j'ai trouvé un chat qui était en piteux état. Et bah, j'ai pas pu le laisser là, donc j'ai appelé l'université pour te prévenir que je ne serais pas là de la matinée, puisque je l'ai récupéré.
Et du coup, tu l'as adopté ou pas?
Non, je l'ai pas adopté. J'avais déjà 2 chats, c'était compliqué. Donc, je voulais chercher une association, et je me suis rendu compte que c'était très compliqué de trouver une association, ouais.
Forcément,
ouais. Et du coup, t'as ouvert la tienne?
C'est ça.
Ok, magnifique.
Et comment, du coup, pour revenir aux chiffres, comment on peut expliquer que ces chiffres, année après année, augmentent toujours?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, là, on a eu, il y a le Covid. Donc, on a eu beaucoup d'adoptions pour combler un manque, voilà, parce que les gens ne pouvaient pas sortir. Ou alors, pendant qu'il y avait les attestations, ils pouvaient sortir pour promener un chien, par exemple. Donc, ça a beaucoup joué. Donc, bon, il y a eu des adoptions, voilà, pour combler.
C'est des malins, les gens, en fait. Ils adoptent des chiens pour pouvoir sortir.
Non, mais c'est pas la bonne solution.
Incroyable,
c'est ça qui est problématique dans tout ça.
C'est un scandale, ça.
Absolument pas. On a beaucoup de gens qui ont inventé des motifs, hein, déménagement, ceci, mais on a aussi des gens qui ont été très honnêtes et qui ont rapporté des animaux en disant je reprends le travail, j'ai plus le temps, j'ai plus envie de m'en occuper.
C'était plutôt des animaux considérés comme des objets, quoi.
C'est ça, c'était très clair que c'était en attendant, parce qu'ils avaient besoin de s'occuper, et puis maintenant, il n'y a plus besoin.
D'ailleurs, on le rappelle, hein, les animaux, c'est pas des objets. Si vous les adoptez, c'est parce que vous pouvez les assumer, d'accord? Que vous pouvez, répondre à tous les besoins sur lesquels ils vont avoir besoin. Donc voilà, ça se réfléchit, une adoption. C'est pas comme ça, pour avoir une attestation et sortir dehors, on le rappelle.
Léa, tu es jeune, tu as 20 ans seulement. Qu'est-ce qui t'a poussé à monter cette association si jeune finalement?
Du coup, il y a eu Layeti. Donc, j'avais à peine 18 ans à ce moment-là, donc quand j'ai trouvé ce chat. Et c'est un peu bête. En fait, à ce moment-là, je faisais déjà partie d'une association. J'étais bénévole au sein de l'association AUCA, donc qui agit en Île-de-France, mais j'étais juste bénévole pour les événements. Donc, participer aux collectes dans les magasins, par exemple, pour récupérer des dons, ce genre de choses. Et c'est les seules actions que je faisais. Bon, je faisais un petit peu de communication sur Facebook, mais voilà, c'est des petites choses. Et même si je m'impliquais, c'est bête à dire, hein, mais j'avais l'impression que ça n'arrivait qu'aux autres. Donc, quand j'ai trouvé ce chat, que je l'ai amené chez le vétérinaire et que la vétérinaire m'a regardé d'un air complètement blasé pour me dire c'est un chat errant, il y en a plein dans la ville. Et vraiment, j'ai bugué en mode ah bon? Il y en a aussi par chez moi?
Ah bah oui, c'est ça.
Je me suis,
C'est ça, oui, on voit des fois des petits chats. Moi, il y a 4 chatons qui étaient dans le jardin de mon voisin qui était parti en vacances. Je les ai vus passer comme ça un moment avec leur maman. Je me suis dit, ah oui, carrément 4, quoi. Hop, et suivi à la queue leu-leu.
Le souci aussi, c'est que ça se reproduit très très vite, les chats. Ouais. Donc c'est très important aussi de stériliser les femelles et de castrer les mâles, parce que je sais pas combien ils peuvent faire de portées par an. Hélène, peut-être que tu saurais nous répondre.
Ah, mais c'est énorme, une chatte, elle peut faire 4 portées de chatons par an. Si on multiplie par 5 chatons à chaque fois, c'est 20 chatons par an. À partir de 6 mois,
ils peuvent refaire.
Les chattes. Les bébés chatons chattes, à partir de 6 mois, elles sont fertiles.
Donc
ça recommence. On arrive à des chiffres de folie.
Bah oui, c'est ça.
J'ai vu un chiffre, c'est 370 000 en 6 ans.
Alors attention, parce qu'il y en a deux qui sont nuls en mathématiques. On a deux tout à l'heure. Voilà, je me traduis. C'est ce qu'on appelle exponentiel, en fait. Voilà.
Je comprends. D'accord. Ok. Merci pour l'info.
Justement, Oxyde, on va continuer avec les chiffres, tu vois, pour te contredire un petit peu. Donc aujourd'hui, pour faire face à ce phénomène d'abandon, il y a différentes choses qui ont été mises en place quand même. Le 30 novembre 2021, il y a une loi qui a été promulguée avec notamment l'obligation d'avoir un certificat d'adoption pour les animaux de compagnie. Il y a également l'interdiction des ventes d'animaux en animalerie depuis pas très longtemps, je crois. Il y a aussi des sanctions, c'est-à-dire qu'un l'abandon d'un animal est passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ça peut monter à 4 ans de prison et 60 000 euros s'il y a connaissance de cause avec circonstances aggravantes. Et ça peut aussi, si cet abandon entraîne la mort de l'animal, le propriétaire risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Pour toi, Léa, est-ce que ces avancées et ces sanctions sont-elles suffisantes ?
Avant même de parler si elles sont suffisantes ou pas, je pense que ce serait important qu'elles soient appliquées.
Oui.
Parce que c'est très intéressant effectivement d'avoir des potentielles sanctions. Maintenant, dans les faits, je le vois très bien à l'association, puisque voilà, on recueille des animaux de différents horizons, on fait aussi des animaux qui viennent de maltraitance, et on voit que dans les faits, généralement, malheureusement, les personnes maltraitantes, il y a beau avoir beaucoup de preuves contre eux, elles s'en sortent toujours très très bien.
C'est ça le problème. Ça, c'est un gros problème, justement, où il faut faire bouger les choses.
Et du coup, la maltraitance, c'est sanctionné aussi par la loi. C'est quoi les peines? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Les peines, du coup, c'est telles qu'on...
Normalement, hein, les peines...
En plus des abandons, c'est-à-dire qu'il y a d'autres peines possibles.
Là, je parle carrément de taper sur son chien, lui faire mal.
Malheureusement, ça ramène à pas grand-chose. Je ne sais même pas quelles sont les peines qui pourraient être appliquées. Maintenant, dans les faits, c'est pareil. Hein, ça va être des petites amendes et éventuellement un peu de prison, souvent avec sursis.
On a encore du progrès à faire, alors.
Oui.
Et
oui,
qu'est-ce vraiment qu'il faut faire en plus, selon toi? C'est délicat, j'imagine.
C'est délicat, oui. Ce serait juste qu'elle soit appliquée. Ce serait bien, surtout quand on a des preuves. Si elle pouvait être appliquée, ce serait bien.
Appliquer la loi, quoi.
Voilà, appliquer la loi, tout simplement.
Hélène.
Ouais, surtout qu'il est absolument rarissime qu'on applique la sanction qui interdit à quelqu'un de posséder un animal après avoir maltraité. Il y a énormément de gens qui maltraitent, qui sont punis pour ça vaguement et qui reprennent un animal et qui recommencent une fois, deux fois, trois fois,
c'est
10 fois.
Ça.
C'est un grand classique. Ouais, quoi.
Ça, c'est pas normal. Ça, il faut que les choses soient faites en bonne et due forme. Et il faut que les sanctions soient appliquées. T'as autre chose à rajouter, Briac, peut-être?
À part remercier Léa, non. Pour moi, c'est bon.
De toute façon, Léa, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Bon, parfait.
Mais merci à toi pour ton témoignage. Bah,
qui
est très intéressant et j'espère faire un petit peu bouger les choses quand même.
J'espère aussi.
Espérons. En tout cas, le message a été passé. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Léa? Où est-ce qu'on peut retrouver l'association? Pardon, c'est mieux.
L'association, on peut la retrouver sur nos réseaux sociaux, bien sûr. Hein, on a Facebook, Instagram. On peut la retrouver, on a un site internet aussi. Et puis, en vrai, du coup, hein, on a le refuge à Beauchamp.
Qui est ouvert récemment, là.
Voilà, qui vient d'ouvrir. Il a ouvert le 3 septembre.
Génial. Eh bien, écoute, toutes mes félicitations. De toute manière, tu restes avec nous. Nous, on va faire une petite pause musicale. Avec le dernier son de Soul King et Niska, c'est Baladé, on se retrouve juste après sur IDFM.
Bébé, je fais des sous, je rentre tard. C'est léger, je suis pas trop fait tard. Je suis les ouais, je roule sur la costa. Ma tête sur tous les posters. J'ai visé tout là-haut, écoutez jusqu'à Macao. Tu critiques mais t'es KO. Là c'est Soul King et Charo des Charo. Elle veut que je bois dans son verre.
C'est la
merde. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover.
Dans la jump.
Oui, elle veut que je bois dans son verre.
Oh my god.
Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. J'entrerai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. J'entrerai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde.
Encaissé de qui je t'en ai pas qu'à ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser.
Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser.
c'est trop de la D. C'est plus la même qu'avant. Chacal croit pas qu'on t'a zappé. On va te chercher dans toute la France. Je fais bouger le tisme. Je fais partir le tosma. La zone elle est minée. Faut vestir les menottes. Charlie Delta au quartier latin. Jogo Jota ou Kiki Lotin. Méchant, méchant, on a gâté le coin. Car depuis longtemps on est culotté. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je veux me balader. Mais c'est plus comme avant. J'chanterai le quartier toute ma vie. Même si j'fais le tour du monde. J'vais m'balader. Mais c'est plus comme avant. J'chanterai le quartier toute ma vie. Même si j'fais le tour du monde.
Encaissé de qui j't'en ai bon qu'à ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le mic qui le fait danser.
Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le mic qui le fait danser. J'vais m'balader. Mais c'est plus comme avant, j'chanterai le quartier toute ma vie. Même si j'fais le tour du monde, j'vais me balader. Mais c'est plus comme avant, j'chanterai le quartier toute ma vie. Même si j'fais le tour du monde.
De retour en direct sur IDFM, si vous nous rejoignez, vous êtes au bon endroit, ne changez plus de fréquence. On est ensemble jusqu'à 17h dans votre nouveau talk show. Ça peut faire mal que vous retrouverez tous les lundis de 16h à 17h.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
Tout à l'heure, on va s'écouter... Alvaro Soler et Topic, ce sera Solo Palati. Ça, c'est du son. On revient d'été pour mettre l'ambiance.
Et là, on y retourne avec ça.
Là, on va y retourner. Ouais. C'est pour prolonger un peu le plaisir. Avant ça, on va quand même passer à la deuxième partie de cette émission. Elle remplace aujourd'hui le débat auditeur de la semaine. C'est Hélène Vigier, dit Tata Hélène, par mes animaux. J'étais obligé de la sortir. J'étais obligé de la sortir.
Non, c'est pas bien.
Elle est comportementaliste canin et félin. Et je peux vous le confirmer, ses méthodes fonctionnent car ça a fonctionné avec mes animaux. Comment ça va, Hélène?
Eh bien, ça va très très bien, Rémi.
Alors, très content que tu viennes répondre à nos questions sur IDFM. Pour information, Hélène, c'est l'éducatrice qui nous a appris, hein, ma conjointe et moi, à, on va dire entre guillemets, éduquer nos animaux de manière positive. Et quand je dis positif, c'est vraiment positif. Aucune violence, aucun collier à décharge électrique, rien de tout ça. Et c'est ça qu'on veut pour nos amis poilus.
Hélène, tu parles d'oxydes là?
ça aurait pu.
Ça existe, non, ça existe vraiment, les colliers là, à décharge électrique?
Oui, ça existe.
C'est horrible.
Hélène,
ça,
vas-y, parle-nous de ces colliers à décharge.
C'est une horreur, le collier électrique. Et c'est encore utilisé par plein de gens. Et c'est vraiment un outil de torture.
Mais il faudrait en mettre un au maître aussi.
Je suis assez d'accord. Non, pas à l'animal. Pas à l'animal. Ouais, alors, bah... il est dans les tuyaux d'ailleurs que ça soit interdit.
D'accord. Ah,
et
donc
on espère. Il y a déjà des pays qui l'ont interdit.
Ok.
On espère que ça va arriver en France.
Ouais.
Parce que c'est juste de la torture.
Ah mais total.
Et puis c'est pas d'une efficacité entre nous formidable.
Ah bah non. Bah de toute façon, ils préfèrent toujours la bouffe. Hein, de toute façon, nos amis. En tout cas la mienne. Hein,
Bah oui, mais à qui ça viendrait à l'idée d'envoyer des décharges à son animal ?
Il y en a. En fait, il y en a beaucoup parce qu'ils aboient. Par exemple, moi j'ai mon voisin.
Oh non.
Il a 3 chiens et dès que quelqu'un passe à côté du grillage, le chien se met à aboyer. Et en fait, il met des décharges quand il aboie trop ou truc, et le chien n'aboie plus. Alors moi, je suis totalement contre ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres méthodes positives qui peuvent être appliquées. Qu'est-ce qu'on fait justement si un chien se met à aboyer comme ça? Qu'est-ce qu'un maître doit faire? Après, ça dépend du chien, bien sûr. On le précise.
Mais oui, mais il faut savoir pourquoi il aboie ce chien d'abord.
Ouais.
Eh ben déjà, c'est une première chose, c'est qu'un chien, il a besoin de s'exprimer. C'est
bien
normal.
Sûr.
Vous allez pas mettre une décharge électrique à votre gamin à chaque fois qu'il crie en jouant dans la rue ou dans le jardin, on est d'accord.
Totalement, bon, ouais.
Voilà. Donc on va chercher la raison. Si c'est un animal qui garde sa maison, c'est un peu logique. Et ben on le laisse pas tout seul dans le jardin, c'est tout bête.
Oui, c'est vrai.
Hein, ça commence par là. Il faut chercher pourquoi. Et puis quand on a le pourquoi, on trouve des solutions.
Ouais, on trouve le comment.
C'est ça. Exactement.
Exactement.
Voilà. C'est pas très compliqué, mais c'est un truc humain de chercher une méthode rapide. Sans vraiment connaître les causes. D'accord. C'est, oh bah tiens, on va taper dessus tout de suite, ça va l'arrêter.
Ah mais de toute manière, ça ne sert à rien. Et puis l'animal, après, si un jour il se retourne contre le maître, c'est pas la même histoire. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà, partir sur une éducation positive, c'est très important. Moi, mon labramour, il est vraiment. J'aime bien le jeu de mots. Hein, c'est un groupe sur Facebook. Il est vraiment, elle est vraiment adorable. Vraiment, on a eu les bonnes méthodes. D'ailleurs, Hélène, elle ne tire plus en laisse, presque.
Ah. On y arrive.
On y arrive tout doucement avec la bouffe toujours.
Et avec un labrador, c'est pas évident. Hein.
C'est pas évident, mais là ça va, elle se calme. Et puis pour vous faire une idée, justement, si vous avez l'intention par exemple d'adopter un chat et que vous avez un chien, que vous avez jamais testé justement l'approche chien-chat, c'est important aussi d'appeler éventuellement une éducatrice comportementaliste pour justement vous donner les bons conseils. C'est ce que j'ai fait, j'ai appelé Hélène, elle est venue à la maison, elle a vu Micah et Moon, et puis elle nous a donné les bons conseils, et maintenant elles se font des bisous et des câlins. Ah, c'est trop
incroyable,
mignon.
Hein.
C'est
ouais.
mignon, hein. Très mignon. Tu les as vus sur Insta?
Ouais.
Elles sont mignonnes.
Waouh.
Ouais.
Wow.
Ouais. Alors, bon, je pense que en fait dans l'équipe on a tous des animaux.
Oui.
Tous.
Ouais.
Oxyde a un chat, Briac a un chien, oui. D'accord, qui est le chien de ses parents, mais il a vécu avec pendant un bon moment.
19 ans.
19 ans.
Enfin, j'ai vécu avec pendant 19 ans. Enfin moins, enfin dans 12 ans, mais voilà.
Mais il est ouais. Il est encore vivant.
Il a
C'est quelle race?
C'est un croisé. C'est un beagle et l'autre on n'a jamais su ce que c'était.
C'est un enfant de l'amour et du hasard.
Voilà, exactement.
Ah,
on l'a trouvé.
C'est
en...
joli ça.
C'est joli, ça.
Très
on l'a
bien
trouvé
dit.
Sur la route en Dordogne, donc ça rejoint un peu la chronique de tout à l'heure.
D'accord.
Donc voilà, on l'a récupéré sur la route quand il avait 2 mois.
Et comment il s'appelle?
Pablo.
Pablo,
oui.
Waouh, très beau nom. Alors je te propose du coup, j'imagine que t'as déjà vu un comportement chelou de la part de ton chien, un truc bizarre qu'il a fait.
Oui.
Pose la question à Hélène, pourquoi,
alors,
à quoi ça pourrait être dû?
Ce cher Pablo était plus jeune, enfin pendant 4-5 ans quand même, il a mangé tout ce qui était possible. Donc c'est-à-dire un canapé, un vélo, des vêtements, etc.
Et on m'a dit
que c'était lié au fait qu'il ait été abandonné quand il était petit. Est-ce que c'est possible?
Non, je pense pas. Je pense pas.
C'est bien ce que je pensais.
En général, ce type de comportement, un chien va l'avoir où? Quand il s'ennuie?
Oui.
Ou quand il stresse?
D'accord. Oui, voilà. Il faisait ça quand il était tout seul.
Ben voilà. Donc ça peut être et l'ennui parce qu'il est seul et le stress d'être tout seul. Deux raisons. Voilà. C'est les principales raisons de destruction des animaux dans une maison.
Et il y a aussi, si je me trompe, tu me le dis, le fait que si les maîtres ne sont pas là, ils vont chercher à bouffer tout ce qui a l'odeur du.
Alors, ils
du
vont
maître.
Pas chercher à bouffer.
Ouais.
Ils vont rechercher l'odeur du maître.
D'accord.
Pour se rassurer.
D'accord. Ok.
Et ils vont commencer à lécher. C'est pour ça qu'en général, on a les chaussures. Qui sont bouffés en premier.
Oui.
Ouais. Pour moi, je les mets en hauteur.
Oui, mais,
cas, mais...
En général, les chaussures sont mangées.
Ouais.
S'il y a des sous-vêtements qui traînent, les sous-vêtements sont attaqués.
Ah, moi,
téléphone, lunettes, télécommande, tout ce qui porte bien l'odeur de l'humain.
Mm-hmm. D'accord.
Voilà.
Ok.
J'avais
juste
une autre question très rapide.
Oui, vas-y. Je t'en prie.
Toujours ce cher Pablo. Quand on approche une église et que l'église et que les cloches de l'église retentissent. Commence à faire un peu le loup. Je vais pas le faire en direct là, mais
pourquoi pas? Fais-le, non?
Oui, non, ça va.
Ah, c'est marrant ça. Ouais, j'aimerais bien que tu le fasses, ouais.
Plus tard.
Il faut savoir que les chiens ont une audition qui est bien supérieure à la nôtre.
Mm-hmm.
Quand vous criez sur un chien, pour lui, c'est l'équivalent d'une sirène de pompier qui passe à côté.
D'accord.
Donc, t'imagines les cloches d'une église, ce que ça fait pour un chien. C'est extrêmement violent. Donc sa réaction, elle est peut-être aussi... alors, elle doit le déranger. Et puis, il y a peut-être un côté un peu loup, jurle avec tout le monde.
D'accord.
Il y a des, okay. y a des chiens qui sont très sensibles au son. Vous avez des chiens qui hurlent quand il y a de la musique qui passe. Hein.
Mm-hmm.
Sur certains sons, on en voit ça. On les voit sur,
ah oui, on les voit sur
les réseaux, on les voit ceux-là.
Voilà. Le husky, ça gueule beaucoup aussi.
Le husky vocalise énormément.
Ah ouais, c'est très drôle.
On a ça chez les chiens, ce qu'on appelle les chiens primitifs, c'est-à-dire les races qui sont encore un peu proches du loup.
D'accord, voilà. Ok, donc le husky.
Voilà, le husky c'est un chien primitif.
Ça se voit.
Voilà, donc il y a des comportements comme ça qui sont plus présents chez ces chiens-là.
D'accord, ok.
Bah maintenant il est sourd d'ailleurs, Pablo.
Mais bon, chez le beagle, après.
Il a pas mal d'âge aussi.
Après, hein. C'est un big croisé beagle.
Oui.
Bah oui, mais c'est des chiens qui marchent à la voix, hein. C'est des chiens de chasse à cours.
C'est ça.
Et ouais, il faut que ça vocalise aussi.
La chasse,
il y a des explications.
On va pas partir sur ce débat,
hein.
Mais je ne valide absolument pas la chasse.
Non, mais c'est une explication, c'est tout. On a créé des races pour des usages particulier.
Oui.
Les chiens de chasse à cours, on leur demande de courir après le gibier et de vocaliser pour dire où ils sont.
Ouais, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de création de race, juste après, on enchaînera avec un comportement chelou de ton chat. Si tu m'as dit que t'étais un peu chelou.
C'est un chat, c'est tout.
Comment ça? Ouais, c'est vrai qu'un chat, c'est très bizarre. Ça a des comportements, on n'arrive pas à les comprendre.
Non, je m'excuse, je dis pas ça, c'est pas vrai. C'était juste une vanne.
La mienne, en tout cas, elle fait des trucs.
Tous les chats qui nous écoutent sont choqués.
Voilà, c'est ça, exactement. Voilà.
Je tiens à m'excuser.
Grosse indignation des chats. Ouais.
Dis-moi, Hélène, on est bien d'accord. La race, le carlin, d'accord?
Ouais.
C'est une race qui a été forcément inventée, on va dire, enfin inventée, qui a été croisée avec plein d'autres trucs en laboratoire comme la plupart.
En laboratoire.
Non, c'est pas en laboratoire.
Non.
Mais non. C'est quoi alors?
Mais non.
Ils ont croisé les races entre eux.
Ouais,
non, c'est jamais. Hein, moi, je sais pas.
Non.
C'est pour ça qu'on a fait appel à Hélène.
Toutes les races sont issues de croisements.
D'accord. Ok.
On sélectionne des individus pour des caractères particuliers qui sont ou physiques ou mentaux, psychologiques.
Ok.
Et puis on va les faire se reproduire et puis on va garder ceux qui ont les caractères qu'on recherche et puis on se les fait reproduire entre eux. Voilà. On crée des races comme ça.
D'accord.
Après, on a des races comme le carlin.
Ouais.
Où on a un excès dans la recherche de caractères physiques avec des chiens qui ont des nez de plus en plus courts.
C'est ça.
Des yeux de plus en plus globuleux. C'est ce qu'on appelle un hypertype.
D'accord, et on est bien d'accord que ces animaux-là, parce que j'ai vu un peu sur les réseaux, il y a une petite hype autour de ça.
Ouais.
Ces animaux-là souffrent beaucoup tout au long
bien
de leur
sûr.
Vie.
Oui.
Donc voilà, je comprends pas pourquoi d'ailleurs ils continuent à faire des élevages de carlins.
Mais s'il y avait que le carlin.
Oui, oui, c'est vrai. Oui, on a beaucoup d'autres.
Parce que vraisemblablement, ils en ont rien à foutre que
bah
ça.
Oui, mais clairement.
Alors, souffrir l'animal.
Non, mais je pense qu'il y a plein de gens qui réalisent même pas.
Oui, ouais, je pense. Mais de toute façon, ça s'entend quand ils respirent, les carlins, quand ils courent.
Un bulldog. Un bulldog anglais. Ça ronche. Voilà. Et là, je tiens à le dire. Il y a une race qu'on voit un peu partout maintenant qui s'appelle le bully.
D'accord.
L'American bully.
Ok.
On est en train de faire des horreurs avec ces chiens-là. Ils sont plus larges que hauts.
Ah oui, d'accord. Oui, exactement. Hein,
c'est des chiens, ils vont avoir une espérance de vie absolument réduite, épouvantable, ils vont être bourrés d'arthrose à une vitesse terrible.
Ils boitent souvent des pattes arrière, on les voit souvent boiter.
Ils sont difformes. Ouais. Pas tous, hein, mais moi j'en vois, ils deviennent monstrueux, quoi.
Ah bah oui, c'est clair.
Voilà.
Oxyde alors, du coup.
Mais du coup, on a moins ce genre de problème avec les races de chats, du coup, non?
On commence à avoir ça sur par exemple, les persans sont des chats avec des faces très très courtes.
Ouais.
Les persans, c'est les caisses et ce sans poils, hein, c'est ça?
Non, persans, ils ont juste des faces très très plates.
D'accord. Ouais. Oh, ah oui, d'accord, je vois. Voilà. D'accord, ok, très bien.
Blanc avec le.
Avec le nez renfoncé.
Souvent blanc.
Ah, c'est très mignon d'ailleurs.
Alors moi, mon chat, c'est pas un chat de race, hein, c'est un chat que j'ai adopté. Il a grandi chez des gens qui habitaient en caravane, hein. Bon, bref, je vous passe les détails.
Ouais.
Et ils me l'ont donné, ils étaient très gentils avec lui. Et moi, j'ai eu 12 ou 13 chats que j'ai eu au fil des années. Et donc, je croyais que je m'y connaissais en chat, mais j'ai fait l'erreur que beaucoup de gens font. C'est-à-dire que, on s'imagine qu'on est spécialiste du truc, et en fait, non, pas du tout. À un moment, mon chat est tombé malade. Et justement, j'ai pas pensé moi à me renseigner. J'ai trouvé des renseignements sur internet. Et en fait, l'erreur que j'avais fait, c'est que j'avais pas fait stériliser. Donc c'est une femelle et que je l'avais pas fait stériliser. Et donc elle a fait une infection de l'utérus.
Ah oui.
Etc. Et donc ouais, moi ma réflexion, c'est de me dire qu'en fait finalement, faut toujours demander des renseignements à des gens comme toi qui vraiment connaissent le sujet.
C'est
et
important.
Ne pas se dire qu'on est spécialiste d'un sujet alors qu'on a juste une expérience simplement comme ça de j'ai eu des chats, mais ça fait pas de moi un spécialiste, quoi.
Totalement, ouais.
Qu'est-ce que t'en penses?
C'est pas faux.
Non, mais est-ce que tu vois.
Je peux caler dans ton sens, après je vais te dire un truc.
Est-ce que tu vois souvent des gens comme ça qui se disent moi j'ai eu des chats, c'est bon, je connais.
On m'appelle de temps en temps sur j'ai eu des chiens toute ma vie, j'ai toujours fait comme ça, puis là ça marche pas.
Exactement.
Oui, bien sûr.
Et c'est très compliqué à comprendre un chat, c'est très particulier, non? T'arrives tout le temps à trouver des solutions ou des fois il y a des endroits où tu vas bloquer
Les chats, c'est particulièrement compliqué.
Ah oui, voilà. Ça.
Les chiens, c'est beaucoup plus codifié. D'abord parce que le chat est domestiqué depuis moins longtemps que le chien.
Ouais.
Que c'est pas un animal social. Les chats, c'est des indépendants, hein.
Tout à fait.
C'est pas en vie en famille.
voilà. S'en foutent un peu.
Ouais, ouais non mais bah,
regarde, c'est donne-moi à manger, mais nettoie-moi ma litière et puis on
c'est
est bon.
C'est des animaux extrêmement sensibles. Et puis, ce qui va correspondre pour un chat, ce qui va fonctionner, va pas forcément fonctionner pour l'autre. Donc ouais, il faut y aller, vraiment, il faut tester des tas de choses. Alors, rien que les problèmes numéro un de demande, c'est mon chat fait pas pipi dans sa caisse, il fait à côté.
Ouais.
Ça c'est la demande numéro un.
Ça peut être un problème de sevrage beaucoup de fois,
non?
Non,
pas la bonne litière, elle est pas au bon endroit, il y a pas assez de litière. Qu'est-ce qu'il voit dehors quand il est près de sa litière?
Sont compliqués.
C'est des chipoteurs les chats. Hein.
ouais. Non, le chat c'est un vrai sujet. Hein. C'est pas simple du tout.
Ouais bon, nous on a de la chance à la maison, elle est venue toquer à la porte, on l'a recueillie, c'est un amour, j'ai jamais vu un chat aussi gentil, sérieusement, hein, et ma copine travaille dans une, enfin, est bénévole dans une association à Pontoise de chats, et franchement, j'ai jamais vu un chat comme ça, tu l'as vu d'ailleurs, elle est toute petite, par contre, ça m'inquiète un peu, on en parlera après, on en parlera après, merci,
merci, et quoi, c'est quoi ton problème
avec ton
chat?
Pour revenir à ton histoire de chat, là, qui a eu un cancer, une tumeur ou je sais pas quoi.
Non, c'était une infection. Simplement, mais après ils ont dû tout enlever en fait.
Ouais, mais c'est pas le fait d'être stérilisé ou pas stérilisé qui joue là-dessus quoi. Sinon on enlèverait tous les organes pour pas avoir de, tu vois.
D'accord, ouais.
Ça peut arriver à un animal stérilisé, hein, une infection.
Bah maintenant je suis beaucoup plus humble en fait. J'accepte volontiers de me faire conseiller en fait. Et c'est vrai que moi sur le coup, j'étais bloqué sur des idées reçues comme ça, un chat, ça, c'est comme ça, il faut le mettre là, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est vrai que ça fait redescendre quand t'as ton chat qui est sur le point de crever en fait.
Ah bah oui, c'est tout de suite, c'est un choc de toute manière. Ouais. Mais oui, voilà. De toute façon, c'est comme les individus, c'est comme nous, comme tout le monde. Chaque être est différent, d'accord. Donc voilà, il y a une méthode différente pour chaque animal. En tout cas, merci Hélène d'avoir été avec nous. Tu restes avec nous jusqu'à la fin aussi.
Tout à fait.
Bon,
oui.
Bah voilà.
Parfait, ça.
Bah ça c'est nickel. Bon, bah on va s'écouter du coup. Le dernier son de Alvaro Soler est Topic. C'est Solo Palati et on se retrouve juste après sur IDFM.
Le tengo miedo al silencio, tan lejos de ti. Tus plumas bajo la luna preguntan por mí. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele. Tengo dónde ir si tú no estás aquí. No queda nada que decir. Taram, tararam, 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 tararam. Lo siento por tanto sufrimiento. Guardaba tantos versos solo para ti. Ahora que siento que solo canto al viento. Guardaba tantos versos solo para ti. Versión de lo que fuimos, mi recuerdo está lleno de luz. Y aunque ahora no estemos bien, sé que algún día parará de llover y al final ya veremos la luz. Yeah. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir si tú no estás aquí. No queda nada que. Lo siento por tanto sufrimiento. Guardaba tantos versos solo para ti. Ahora que siento que solo canto al viento. Guardaba tantos versos solo para ti. Solo para ti. Sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti. Oh, que siento que solo canto al viento. Guardaba tantos versos solo para ti. Solo para ti. Solo para ti.
Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Vous êtes bien sur IDFM dans votre talk show préféré, ça peut faire mal. On a découvert l'association Le Yeti, Hélène Vigier, et on arrive maintenant à l'interview de la semaine, pas des moindres, hein, car on reçoit aujourd'hui Lionel D, qui a arrêté avec son équipe Salah Abdeslam, auteur des attentats terroristes du 13 novembre. Il est avec nous en ligne depuis la Belgique et il va répondre à nos questions. Comment ça va, Lionel ?
Moi, ça va, merci. Salut à tous.
Bonjour.
Salut Lionel. Salut Lionel.
Alors, il fait beau en Belgique ?
Alors là, pour l'instant, ouais, il fait beau. Ça fait 2 mois, je pense, qu'on n'a pas eu une goutte de pluie. Donc, ah. Ouais, il fait très bien.
Alors ça, c'est bien pour nous, mais c'est moins bien pour au niveau sécheresse, hein.
Exactement. Bon. Ouais, ça devient problématique.
Ouais, c'est ça. Mais bon, s'il fait beau, c'est parfait. Bon, pour résumer, tu faisais partie de l'équivalent du GIGN, mais en Belgique. Tu es maintenant auteur avec un ouvrage qui s'appelle Chasseur de terroristes, leader de l'équipe de formation de l'unité DSU Intervention, autrement appelé Groupe Diane. Je me suis pas trompé jusque-là?
Non, c'est parfait. Là, okay. C'est bon. C'est dans le bon.
Ouais. Ok, nickel. Bon, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment la vie d'un chasseur de terroristes ?
Alors, chasseur de terroristes, c'est, comme tu l'as bien dit, c'est le nom du livre, enfin, c'est le titre du livre. Mais nous, notre scope de travail, c'est un peu comme le GIGN. Donc, on fait allant de prise d'otage, retranchés, des gars retranchés, des remises de rançon, des émeutes de prison, etc. C'était plutôt ça notre core business. Et bien évidemment, on est une unité antiterroriste, mais on ne faisait pas ça tous les jours. Alors avec les attentats, ça a pris de l'ampleur, etc. Et c'est un job assez c'est passionnant, bien évidemment. Moi, c'était plus mon job.
D'accord.
C'est comme ça qu'il faut le vivre, sinon tu tiens pas. Mais donc, voilà. C'était une période assez compliquée quand même.
Assez mouvementée, ouais. Et du coup, j'ai vu, hein, concernant la formation pour intégrer cette unité, pour ceux qui rêvent de faire ça, j'ai vu que c'est très compliqué et très sélectif. Comment ça se passe justement pour ceux qui veulent faire ça, que ce soit en Belgique, en France, j'imagine que c'est assez similaire des deux côtés.
Oui, comme tu dis, donc bien la sélection, la formation est plus ou moins similaire qu'avec le GIGN. Alors, il faut savoir que chaque année, il y a quelques centaines de candidats et il n'y a que quelques élus. Je sais que pour cette année, à la DSU, il y avait une centaine de candidats. Ils sont sortis à 3 du stage et il y en a un qui a réussi finalement à intégrer tout le monde. Donc, ça remet un peu en perspective la sélection. Écoute, c'est très dur, évidemment. Donc, c'est très physique. C'est ce que tu vois si tu regardes sur YouTube, dans des documentaires ou n'importe quoi. C'est très physique. Mais c'est bien sûr et surtout très mental. Donc on cherche des gens qui sont très résilients, qui sont psychologiquement très stables, qui ont pas de problèmes bien évidemment mentaux et caractériels, etc. Donc c'est peut-être je sais pas t'expliquer ça comme ça en 2 minutes bien évidemment.
Oui, bien
mais
sûr.
C'est un profil bien spécifique qu'on recherche, des gens qui sont très discret, loyal dans l'abnégation de ce qu'ils font, etc. Donc voilà, c'est un peu ce profil-là.
Lionel, c'est Oxyde là qui te parle, et donc moi j'avais une question, je voulais savoir, bien entendu sans dévoiler tout ce qui est dans le livre, mais comment toi ça t'est venu, comment tu t'es dit à un moment, bah voilà, moi je veux faire partie des forces spéciales, je veux absolument faire ce job-là, quoi.
Pour moi, j'ai, je pense, un peu un profil atypique parce que ça a jamais été vraiment un rêve d'enfant pour moi perso. Pour la plupart de mes collègues ou de nouveaux candidats, c'est un rêve d'enfant pour devenir pilote de chasse ou joueur de foot professionnel. Moi, ça me l'était pas. J'ai intégré la police en 2000 et puis un peu le fil en aiguille. Ça, je l'explique bien dans le livre, je pense, mais un peu le fil en aiguille. Je me suis c'est un pote qui m'a dit, ouais, c'est peut-être un truc pour toi, essaye quand même, etc. Et j'ai été un peu la fleur au fusil.
T'avais des.
Pas vraiment sachant de ce qui allait m'arriver. Je pense que ça m'a un peu sauvé aussi. Voilà.
T'avais des capacités peut-être aussi meilleures que. Des aptitudes meilleures que tes collègues.
Vu le résultat, oui, sans doute. Alors, j'ai pas la prétention de dire que j'étais peut-être même au contraire, physiquement, j'étais peut-être dans les moins bons, mais je pense que caractériellement et au niveau dans la tête, j'avais ce qu'il fallait avoir. Et puis le truc, c'est ce que je dis tout le temps aux jeunes ou aux nouveaux ou aux gens qui me suivent sur Instagram. J'ai beaucoup de jeunes qui me suivent, qui me posent des questions sur la formation, etc. C'est que il faut le vouloir, il faut vraiment le vouloir. Si t'hésites ou s'il y a un moment où t'es pas sûr et certain, tu dis ouais mais si je fais pas ça, je serai peut-être autour. Tu vas jamais y arriver.
Ouais, c'est sûr. Bien sûr.
Donc, à un certain moment, il faut vraiment, vraiment le vouloir. Voilà.
Ah, c'est le mental. C'est le mental, comme tu l'as dit, surtout qui est mis à rude épreuve durant ces tests.
Oui, Lionel, c'est Briac qui reprend les rênes. On va passer à l'actualité un peu plus récente. Le 29 juin dernier, il y a eu la fin du procès Salah Abdeslam. Donc il a été condamné à la perpétuité incompressible, c'est la peine maximale en France. Est-ce que déjà tu as suivi le procès, et si oui, est-ce que c'était important pour toi de le faire?
Alors moi personnellement, j'ai pas suivi le procès. En plus, honnêtement, ici en Belgique, ça n'a pas été super fort médiatisé. Alors, ça a été suivi quand même, enfin, de loin, on va dire, surtout au début, au milieu, à la fin du procès. Mais c'est pas que, voilà, ça n'a pas été suivi tous les jours. Ça a duré quand même très longtemps. Donc moi, perso, j'ai pas trop suivi. Et je vais t'avouer très franchement que ça ne veut pas dire que ça me fait ni chaud ni froid, mais j'ai pas trop d'émotion ni pour ce gars, ni pour ce qu'il a fait.
Oui, j'imagine.
J'ai fait mon boulot, j'ai été le chercher. Enfin, moi et les équipes, on a été le chercher. Et puis voilà. Donc, de toute façon, à l'issue du procès, on savait ce qui allait se passer. Hein.
Oui.
On savait qu'il après, qu'il allait prendre perpète.
C'est
plutôt symbolique, et je comprends que pour les victimes, c'est très important. La famille, les familles des victimes, etc. Il fallait que ça se fasse. Et d'ailleurs, c'était bien qu'on ait pu le choper vivant, c'est pour ça. Mais je veux dire, pour moi perso, je m'en fous un peu.
Ouais. D'accord. Ouais, t'as fait ton boulot, tu l'as chopé, et puis après c'est la justice qui fait son travail. Je comprends.
D'ailleurs, ouais, pendant le procès, Salah Abdeslam a témoigné, du coup, comme tout procès. Il raconte qu'il a, je cite, renoncé par humanité à déclencher sa ceinture explosive. Est-ce que tu penses, quand il dit ça, qu'il est sincère?
On l'a traqué, et puis voilà, c'est surtout le boulot des enquêteurs et des pelotons d'observation, et nous, on a été simplement, entre guillemets, simplement le chercher.
Oui.
Alors non, on m'a sûr et certain, il a eu l'opportunité de le faire deux, voire trois fois. Il ne l'a pas fait. On sait que, hein, comme son compagnon Sabrine, qui avait aussi l'occasion de le faire, c'était heureusement, hein, d'ailleurs, sinon, ça aurait fait encore plus de victimes. Mais c'était deux poules crevées, hein. c'était des lâches qui n'ont pas osé appuyer sur le bouton. Encore une fois, j'insiste, c'est très bien comme ça, mais il ne faut pas nous faire croire maintenant que c'est pas l'humanité ou n'importe quoi, c'est parce que lui, c'est un lâche.
Ah bah oui, clairement, oui, bien sûr. Concernant la question que tout le monde se pose forcément, parce que nous on a les images que les médias diffusent où vous l'avez chopé, etc. En résumé, comment ça s'est passé, comment vous avez retrouvé sa trace, parce que il me semble avoir lu que c'était 6 mois après qu'il soit parti en cavale que vous l'avez retrouvé à Molenbeek. Comment vous avez réussi à le retrouver dans cet appartement? Ça doit être super super compliqué.
Alors pour nous, c'est de nouveau, je fais la comparaison avec la France, parce que comme ça va peut-être plus vous parler. Nous, l'unité d'intervention, on met le dernier maillon de la chaîne. On ne fait qu'exécuter ce que les enquêteurs veulent quand ils aboutissent dans une enquête, ou le parquet fédéral décide. Donc ici, après 4 mois, plus que 4 mois d'enquête, de traque, etc., les enquêteurs l'avaient plus ou moins par croisement, par info, de téléphonie, d'observation, voilà, de plein de choses. Il y avait deux endroits où il était possible qu'il se planquait, dont cet endroit-là. Et puis bon, l'anecdote vient un peu que le peloton d'observation chez nous, à un certain moment, a vu qu'il y avait un gars qui rentrait dans cette adresse avec une boîte de pizza. Alors ça fait un peu sourire tout le monde, parce que ça fait un peu film américain, mais c'est la réalité. Et en fait, à l'adresse, il y avait que deux personnes inscrites. Donc quand tu rentres tous les jours avec 6 boîtes de pizza ou 6 paquets de frites ou n'importe quoi, enfin voilà, ça a un peu mis la puce à l'oreille aux enquêteurs. Ils ont dit tiens, il y a quelque chose de bizarre. Puis ils ont été voir, étudier dans les poubelles. Et voilà, ils ont retrouvé, je pense, à l'époque de l'ADN aussi, et puis ils se sont dit, ils sont que deux à l'intérieur, c'est impossible qu'ils mangent.
Bah oui, 6 pizzas, c'est un peu chaud à deux.
Ouais, ouais.
D'accord. Et donc c'est ça qui, oh, d'accord. Entre autres, hein, voilà, c'est bien résumé parce que forcément il y a beaucoup plus d'étapes, on va dire quand c'est, enfin dans le détail vraiment. Là, voilà, c'est vraiment un résumé assez rapide, mais c'est intéressant de le savoir.
Alors moi je voulais savoir un truc aussi. C'est Oxyde encore qui parle là. Qu'est-ce qu'on ressent et surtout qu'est-ce qu'on pense quand on est comme ça sur une intervention et qu'on a l'information que dans un endroit comme ça retranché, il y a des personnes qui sont dangereuses, qu'il peut y avoir des armes à feu, qu'il peut y avoir une fusillade, qu'il peut y avoir vraiment quelque chose de grave qui va arriver. Qu'est-ce qui te passe toi par la tête à ce moment-là?
Il faut savoir que on est quand même tous fort, on va dire, entraînés et formatés au niveau mental quand même aussi. Et
oui,
que,
j'imagine.
Justement, une fois que, on va dire, le clic est fait dans la tête, ben, c'est la mission qui prime. Et c'est la mission qui prime surtout. C'est d'abord la mission, et puis après, on verra bien. Donc, c'est tellement focalisé sur ce que tu dois faire, sur la gestion. Ben, moi, j'étais chef d'équipe, sur la gestion de ton équipe ou des équipes, sur la communication, sur l'opérationnel, etc., que t'as plus trop le temps, on va dire, d'avoir une notion émotionnelle de ce qui se passe. Et c'est très bien comme ça.
D'accord.
On essaie justement de mettre sur le côté pendant l'émission, parce que tout ce qui est émotionnel, bien sûr, ce que j'explique souvent aussi, c'est ça nuit dans ton comportement. C'est là que t'attrapes un effet tunnel. C'est là que, alors je dis pas qu'on est trop beau et qu'on se connaît tout d'émotion. Mais on essaye quand même un peu de mettre ça sur le côté. Alors,
bien sûr.
Généralement,
bien sûr.
Les émotions, elles sont là avant ou après. Pendant la mission, on essaye d'être tellement concentré que on passe à autre chose.
C'est ça. Et puis, moi, je voulais savoir aussi. On parle de cette affaire. On parle de cette affaire parce qu'elle a été médiatisée. Mais toi, dans ta carrière, dans ton expérience, est-ce qu'il y a eu des situations où tu t'es senti vraiment encore plus en danger, où là tu t'es dit non, là ça va mal se finir, on va avoir un gros problème?
Oui, tout à fait. Enfin, moi, pour la partie à Beslam, j'étais là, mais j'étais à l'arrière du bâtiment, etc., avec mon équipe, donc j'étais moins confronté, entre guillemets, au danger potentiel qu'il y avait. Par contre, il y a eu plein d'autres missions. De nouveau, je pense que c'est bien décrit dans le livre. Hein. Il y a eu Verrier, l'assaut de Verrier. Là, on était vraiment en plein dedans. Et puis, personnellement, j'ai eu d'autres missions aussi pendant toute cette période d'attentat où je pensais que ça allait vraiment très mal tourner. Et en fait, il se passe rien. Et c'est justement dans des missions comme ça où finalement, il se passe rien, qu'après, tout le monde est un peu à la rigolade.
Bien sûr.
Mais pour toi, dans ta tête, ou émotionnellement, ça fait ce qu'on appelle un peu en anglais un mindfuck. Donc, c'est un truc qui tu crois qu'il va se passer, puis qui se passe pas. Mais quand ça arrive 2, 3, 5 ans, 3... sur un an, ça commence à vraiment te jouer des tours dans la tête. Donc, voilà, c'est énormément épuisant, c'est énormément, ça fatigue, ce qui se passe entre les deux oreilles. Et c'est ça qui était épuisant après ces 2 ans de traque et de perquisition et d'arrestation pour tout ce qui est terreau en Belgique.
Oui, Lionel, comme tu l'as dit, comme on l'a dit, tu fais partie de la DSU. Donc c'est une unité, comme toutes les autres unités d'ailleurs, à l'image du GIGN en France, qui ont été créées juste après les attentats des Jeux Olympiques de Munich en 1972, c'est ça?
C'est ça.
Ouais. Donc du coup, cette année, c'est les 50 ans de ces unités. Est-ce que c'est un sentiment particulier ou alors vous faites comme si rien n'était?
Alors, pour la DSU en particulier, les 50 ans ont déjà été un peu mis en avant au début de l'année. Mmh. Maintenant, au mois de d'octobre, il y a pour nous de nouveau une petite célébration, des festivités avec les instances officielles, etc., pour célébrer le 50e anniversaire de l'unité.
D'accord, ok. Et petite question, on repart au niveau, enfin sur l'intervention que vous avez effectuée quand vous avez arrêté Salah Abdeslam. Combien de temps elle a duré en vrai? Parce que nous on voit des images de quelques secondes où vous le sortez, qui sont passées partout sur BFM, etc. Combien de temps
ça doit aller vite,
ça réellement? Non, mais je pense qu'au contraire, c'est une intervention assez longue. Je pense. Hein. Après, dis-nous tout, Lionel.
à partir du, ça, tout dépend à partir du moment où tu commences bien sûr à voir et à chronométrer l'émission, mais à partir du moment où on commence à se mettre en place. Donc moi j'ai la première équipe qui rentre et qui fait son appel en pré-sorte, donc c'est vraiment on va dire une barrière à l'arrière. On rentre dans le bâtiment où il est planqué, on sait qu'il est au rez-de-chaussée ou au moins 20, donc nous on se met au premier étage, on rentre par les toits, les balcons, etc., pour s'assurer qu'il n'aille pas faire une prise d'otage en haut ou aller chez les voisins. Donc à partir de ce moment-là, si tu comptes, tu démarres le chronomètre, à partir du moment où nous on commence à prendre les projections, on se met en place, et puis les équipes à l'avant se mettent en place, etc., où il y a les tireurs d'élite autour, il y a les négos, jusqu'au ouais. moment où il sort, à mon avis, il doit y avoir 10 minutes.
Combien tu m'as dit ?
10 minutes.
10 minutes. Ah oui, donc c'est oui, en fait c'est assez rapide, mais la zone était quadrillée depuis ouais. Depuis plus longtemps que ça, ouais. non ?
La zone était quadrillée. En fait, il faut voir ça dans tout un contexte, hein. Molenbeek, c'est vraiment c'est une partie de Bruxelles, c'est un peu un gorge, c'est très difficile à travailler pour les collègues du peloton d'observation, pour les enquêteurs, etc. Donc tu sais pas rentrer là comme flic, on va dire, c'est des quartiers où tu sais pas rentrer et attendre, faire un stand-by et te dire, ben, je vais attendre deux rues plus loin pour aller faire qu'une. C'est impossible. Une fois que tu rentres là-dedans, c'est un point de non-retour, il faut stratégiquement, il faut y aller. Donc de nouveau, cette mise en place, elle a été faite, et c'est ça qui est compliqué. Elle a été faite d'une foulée, c'est un peu. Un ballet de collègues, une chorégraphie de collègues qui doit se mettre en place tous au bon moment, au bon endroit, c'est ça qui est compliqué, hein. Et qui a un périmètre, un quadrillage pour être sûr que les protagonistes ici, lui et son contact ne pouvaient plus foutre le camp. Mais à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on le chope, il doit y avoir 10 minutes, un quart d'heure. Mais ça pourrait très bien être 3 heures. C'est parce que lui, il est les négos commencent et puis à un certain moment, assez rapidement, comme il va à l'arrière. On, avec mon équipe, on le croise à l'arrière. Enfin, on le croise. Enfin, on le voit plutôt. Et là, je pense qu'il se rend compte qu'il est cerné en fait. Donc il entend les négos qui commencent à lui faire des injonctions. Il doit sortir, etc. Et assez rapidement, il décide de sortir. C'est le même prix à l'intérieur et c'est une négociation qui dure 3 jours. Hein. Donc voilà, ici, il n'y a pas de... Et je pense que les 10 minutes, ça ne dit pas grand-chose sur l'ampleur de l'opération. Alors après, il y a encore... Il faut faire le suivi de la maison. Donc il faut... Enfin, il y avait un deuxième contact et puis il fallait encore faire tout un sweeping de la maison, etc. Ça a duré encore des heures par après pour être sûr qu'il n'y ait plus personne à l'intérieur.
Ouais, bien sûr.
Pour le moment où on s'est mis et on l'a choqué, il a dû avoir 10 minutes, un quart d'heure.
Et justement, parce que j'ai cru lire que, il faisait le malin quand il sortait de l'appartement, il avançait vers vous, mais en reculant, c'est ça? Alors que vous lui disiez de se montrer, comment ça s'est passé exactement, quand vous l'avez vu sortir de l'appartement?
Alors ça se passe au rez-de-chaussée. Moi, c'est mon meilleur pote justement qui est numéro 1 dans l'équipe de front en ville. Il raconte bien dans le livre ce qu'il voit et comment il le ressent. Bah, il faut savoir que ça fait 4 mois qu'on est à cette trousse, que on a déjà chopé des dizaines voire des centaines de gars qui sont des comparses à toute cette bande-là. Donc on est quand même mis sous pression, aussi bien psychologique qu'au niveau de la hiérarchie juridique, médiatique, la presse, hein, tout le monde nous regarde en disant ben maintenant, enfin, faut pas le rappeler, il faut le choper absolument. Donc la pression est énorme pour ceux qui sont numéro 1, numéro 2 au rang. Mon pote le voit, il lui donne des injonctions et puis là il joue au con, donc c'est ce qu'il explique aussi, hein. Il a une sorte de capuche et une casquette sur la tête. D'abord il est retourné, puis il veut pas se retourner, il veut pas montrer son visage, puis il lève les bras, mais pas tout à fait, puis il redescend ses bras. Faut oui. savoir que pour nous, quand il joue au con comme ça, c'est hyper compliqué, surtout dans un cafétéria où le gars il a peut-être une grenade sur lui, il a peut-être encore une masque, il a peut-être une veste qui peut faire exploser. Donc
oui, c'est
il
ça,
faut
surtout,
prendre
hein.
des décisions en quelques millisecondes. Si à un certain moment il ne suit pas les injonctions, tu fais quoi? Tu tires pas, enfin c'est très compliqué, tu tires pas, enfin et il a une veste, il se fait péter, ben voilà, si tu tires et il a pas de veste, rien du tout, et il est sans arme, on va te dire ouais mais pourquoi t'as tiré, t'es pas vraiment en légitime défense. Alors il faut savoir, je fais une nuance, ici on avait quand même des directives du parquet fédéral qui disaient que même si on voyait pas d'armes, entre guillemets, il y avait certains cas où on pouvait éventuellement faire une neutralisation partielle. Mais c'est compliqué. Enfin, c'est beaucoup de situations qu'il faut éplucher en quelques fractions de secondes.
Oui, c'est donc, ça. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Eh ben, merci en tout cas Lionel d'avoir été avec nous. C'était un réel plaisir de te recevoir. On peut retrouver ton livre Chasseurs de terroristes, les unités spéciales et la traque d'Abdeslam aux éditions Racine. C'est déjà la fin pour nous hein, de Ça peut faire mal. Merci à tous.
Merci
d'avoir
Lionel.
Merci Lionel. Merci
avec
beaucoup.
Nous. Merci.
Merci à vous. Merci la France.
Merci, merci. Et vive la République.
Merci la Belgique.
Merci la Belgique, hein, parce que vous avez fait le taf quand même. Merci, du coup, Lionel. Merci, Léa, d'avoir été avec nous. Merci, Hélène.
Merci beaucoup d'avoir invité.
Au plaisir. On peut vous retrouver où, sur quel réseau? Donnez vos réseaux un petit peu pour qu'on puisse vous.
Alors, on me retrouve sous le nom de La Griffe et la Dent, sur Facebook, sur Instagram.
Comment ça s'écrit, fait la dent?
La griffe.
Ah, la griffe.
Et la dent.
Ah, j'ai compris, la griffe et la dent.
Ouais. Non, il y a sa voiture devant, tu pourras la prendre en photo si tu veux.
Voilà, et j'ai un site internet qui s'appelle lagriffeeladent.com.
D'accord, et ben vous pouvez retrouver Hélène directement sur, enfin partout en fait, partout. Elle est partout.
Elle est partout.
Elle est digitalisée. Ouais. Et toi, Léa, comment on peut retrouver ton association, le Yeti?
On peut la retrouver sur Facebook, Instagram, notre site internet aussi, associationleyeti.org, simple et efficace. Ou sinon en vrai, du coup, à notre refuge à Beauchamp. On diffuse pas encore l'adresse, mais.
Ouais, ça va arriver sur les réseaux. Regardez, vous regardez, vous tapez l'association le Yeti, vous la retrouverez de toute manière très facilement. Merci Oxy. Merci Brian.
Merci à toi Rémi. Encore un travail exceptionnel.
Exceptionnel.
Ça n'arrête pas.
C'était génial.
On est là. Bon, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle édition. Et n'oubliez pas,
ça peut faire mal.
Écoutez IDFM en DAB+ sur toute l'Île-de-France.